suis content de vous retrouver, c'est la rentrée. Je sais pas quel est votre sentiment avec la rentrée, est-ce que c'est plutôt angoissant? Moi, l'année dernière, c'était un peu angoissant la rentrée, cette année, ça va mieux. Peut-être que certains ont été très contents de faire une pause et ont hâte de retourner au travail. Je pense que ce genre de personnes existe, peut-être un peu plus rare. En tout cas, on n'a pas le choix, c'est la rentrée, il faut y retourner. Tout le monde retourne au travail. Et c'est aussi le bon moment de se poser la question, pourquoi est-ce qu'on travaille? Ça peut nous aider éventuellement à nous lever le matin. Pourquoi est-ce qu'on se travaille? Pendant l'été, j'ai regardé un documentaire sur YouTube que vous retrouverez facilement sur Léon Marchand. Vous savez, notre multimédaillé olympique. Très excellent documentaire, 3 épisodes, son père qui l'a tourné, c'est assez intimiste, je vous encourage à le regarder, c'est chouette. Et à la fin du documentaire, on voit Léon Marchand, son père, il est rayonnant, souriant, son père lui demande « Est-ce que tu es heureux ?» Et pour un gars de 22 ans, il a une réponse qui est assez chouette. Il dit « Je crois que oui, parce que ce que je fais, c'est aligné avec qui je suis. » C'est chouette, hein ? Et je pense que vu son entraînement, levé 5 heures du mat, pour être dans la piscine genre une heure plus tard, et des entraînements où parfois ça va jusqu'aux larmes, ça pousse, hein, champion olympique, ça ne fait pas semblant évidemment, je pense qu'il faut une bonne raison de se lever le matin. C'est chouette d'avoir cet alignement, mais on n'est pas tous Léon Marchand. Mais cet alignement-là, c'est cool si on peut quand même l'avoir. Alors c'est un petit peu ce qu'on va regarder aujourd'hui. Mais si on regarde un peu les chiffres du travail, les chiffres de la société d'aujourd'hui, je crois qu'on est assez loin de cet alignement de manière générale. Si on regarde quelques chiffres sur le travail, ça nous donne ceci. Sur les arrêts longue durée dus à un trouble psychologique, en 2016, on était à 14% des arrêts longue durée dus à un trouble psychologique. En 2022, on était à 28%, ça a doublé. Au passage, il y a eu le Covid quand même, mais voilà, ça a doublé. Si on regarde la souffrance psychologique au travail, l'Ipsos aujourd'hui estime qu'une personne, un salarié sur deux, est en souffrance psychologique au travail. C'est incroyable ce chiffre. Et dans ce chiffre-là, il y a 14% qui sont en souffrance élevée, c'est-à-dire qu'il y a burn-out ou risque de burn-out ou harcèlement, ce genre de choses graves, souffrance psychologique élevée. Quand on regarde encore un autre chiffre qui nous dit que les générations changent et la société change aussi. En 1990, quand on posait la question aux gens « Est-ce que le travail est pour vous quelque chose de très important ?» 60% des gens répondaient « Oui ». En 2022, 21%. Divisé par 3. Les générations changent, peut-être que les générations d'avant n'avaient pas le bon exemple, montraient pas le bon exemple, bref. Un dernier chiffre, le temps de travail, vous connaissez ça, début du XXe siècle, en 1900, on était à 70 heures semaine. En 2000, loi Aubry, on a voté les 35 heures, divisé par 2. Vous imaginez, 70 heures par semaine? Il y en a certains qui, ça leur arrive de faire 70 heures par semaine, on ne fait pas ça toute l'année, on ne tient pas. Réduction du temps de travail, et peut-être que vous connaissez, certains voudraient plus. Peut-être que vous avez déjà vu ça sur les ponts. Chacun pense ce qu'il veut de ce genre de choses. En tout cas, il y a une certaine fuite en arrière face à la difficulté du travail, c'est indéniable. Et la société change, évidemment, on le voit. Il y a une fuite en arrière, mais il y a aussi une fuite en avant. Je ne sais pas si vous connaissez ça. Le 9-9-6, je suis sûr qu'il y en a au moins un qui connaît. 9h, 21h, 6 jours par semaine. On retombe sur les 70 heures semaine du début du XXe siècle, sauf que là, c'est la Chine qui a promu ce truc-là dans les années 2010, et le marché mondial et la compétition fait que voilà, les premiers à embrayer le pas, et c'est en ce moment en train de se voir pas mal dans la Silicon Valley, et il y a des gens qui se crament au boulot à faire du 9-9-6, 70 heures semaine, il y a une forme de fuite en avant, là, pour le coup, dans le travail. Donc, voilà, le travail, on le sait, c'est pas facile. Proverbe, on l'a dit pendant tout l'été, le proverbe, ça nous indique l'art de vivre selon la sagesse de Dieu. Et vu la place du travail dans la vie humaine, ça doit forcément dire des choses, et ça dit énormément, énormément de choses. On n'a pas le temps ce soir de voir tout, on va faire un survol, on va essayer de choper les deux grandes trajectoires qu'on retrouve dans Proverbes. Mais je vous encourage, c'est le début de l'année, c'est la rentrée, lisez Proverbes en essayant de grappiller ce genre de petites choses qui sont à méditer petit à petit. Il y a énormément, énormément de choses dans Proverbes sur le travail. On verra deux points. Le premier, c'est pourquoi on travaille. Et le deuxième, c'est pourquoi, en deux mots, pour quelle raison et pour quel objectif on travaille. La première raison pour laquelle on travaille, c'est parce que Dieu l'a voulu et parce qu'on lui ressemble. On connaît très bien ce texte, Genèse 1, 26, l'homme créé à l'image de Dieu, mais on va le relire et ayez en tête la perspective du travail. Faisons l'homme à notre image, à notre ressemblance, qui domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Dieu créa l'homme à son image, il le créa à l'image de Dieu. Il créa l'homme et la femme. Dieu les bénit et leur dit, reproduisez-vous, devenez nombreux, remplissez la terre, soumettez-la, dominez sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur tout animal qui se déplace sur la terre. Dieu a fait la création en 6 jours, et nous sommes à son image, et j'ai l'intime conviction qu'on est fait pour avoir une activité 6 jours sur 7, par rapport au ce qu'on avait sur le pont tout à l'heure, pas forcément une activité rémunérée 6 jours sur 7, mais une activité productive 6 jours sur 7. On est créé à l'image de Dieu, et Dieu a voulu, c'est ce qu'on vient de lire, Dieu a voulu qu'on soit, on dit, des vice-régents, ceux qui règnent pour représenter Dieu dans la création. C'est classe, ça. Et Dieu a voulu qu'on soit, on dit aussi, des sous-créateurs. Je ne sais pas si c'est aussi classe, mais... C'est dans le sens où Dieu a tout créé, ex nihilo. Lui, il a créé à partir de rien. Et nous, c'est quoi? Qu'est-ce qu'on fait? Dans quel sens on est créateur? On transforme. On transforme ce que Dieu a créé en quelque chose de différent et qui est utile pour les autres, et qui est utile pour la suite. Les amis, vous êtes à l'image de Dieu. Et Dieu vous a créé pour que vous exploriez sa création, pour que vous régniez sur sa création, et c'est ce que vous faites. Le lundi matin quand vous vous levez, le mardi matin quand vous vous levez. Est-ce que vous faites toute la semaine quand vous vous levez pour aller au travail? C'est chouette, ça. La gloire de Dieu, c'est de cacher des choses. La gloire des rois, c'est d'examiner les choses. On explore la création de Dieu. Un peu plus loin dans Genèse, un autre texte qu'on connaît bien, mais encore une fois, lisez-le avec la perspective du travail en tête. L'Éternel Dieu prit l'homme et le plaça dans le jardin d'Éden pour qu'il le cultive et qu'il le garde. Genèse 2, 15, on zoome sur le jardin, on est dans le jardin. Qu'est-ce qu'on doit faire? C'est quoi votre mission? Cultiver et garder le jardin. Et quand on fait ça, les amis, on est aligné avec ce pourquoi Dieu nous a créés. Et on s'épanouit dans ce sens-là. Ça, c'est ce qu'on appelle en général le mandat culturel. Et quand on prêche, on aime bien toucher le cœur, mais on aime bien aussi apporter un petit peu de théologie. Donc, prenez ça, mandat culturel, pour le mettre quelque part. C'est très important de comprendre l'approche qu'on a de notre travail avec une perspective théologique juste. Le mandat culturel, c'est cultiver et garder le jardin, et Dieu nous a fait pour ça. Quand on parle de culture ici, c'est pas juste la culture au sens littérature, musique, cinéma, c'est la culture au sens global, la culture qui prend quelque chose, qui cultive quelque chose un peu à l'état brut et qui l'améliore pour qu'on puisse capitaliser dessus et construire ainsi la société. Je ne sais pas si vous avez ça en tête, mais la Bible, elle décrit 2 paradis. Le premier, c'est un jardin, et le deuxième, c'est une ville. Vous voyez la trajectoire que Dieu a voulu? Quand les justes sont heureux, la ville est dans la joie. Et quand les méchants disparaissent, on pousse des cris de joie. La ville prospère grâce à la bénédiction des hommes droits, mais elle est démolie par la bouche des méchants. Votre activité de la semaine participe à cultiver le jardin, participe à la culture, participe au mandat culturel. Si vous êtes ingénieur, vous construisez, concevez des solutions qui améliorent la société. Si vous êtes juriste comptable, vous veillez à ce que l'ordre règne dans les interactions entre les pairs. Si vous êtes agent immobilier, vous prenez un besoin, vous prenez des contraintes et vous essayez de trouver le meilleur pour que le quotidien de quelqu'un soit amélioré. Si vous êtes artisan, vous utilisez des dons spécifiques pour un besoin spécifique et vous essayez de répondre au mieux aux besoins qui vous est demandé. Si vous travaillez dans le marketing, vous cherchez à mettre sur le produit des produits qui ont besoin d'être connus par d'autres et des bons produits qui vont être utilisés par d'autres. Si vous êtes thérapeute, travailleur social, peut-être c'est plus facile de voir ici. Vous œuvrez auprès des gens qui sont les plus en difficulté, qui auraient un quotidien bien différent si vous n'interveniez pas, qui probablement ont une dignité humaine qui a été abîmée, et vous êtes là pour les aider. Tout ça, les amis, c'est le mandat culturel, c'est ce que vous faites toute la semaine. Et c'est dans le plan de Dieu. C'est cool, non? Sauf qu'on n'est pas resté dans le jardin. Il y a eu les ronces, vous connaissez, les ronces et les chardons. Et il y a les ronces et les chardons du dehors, et les ronces et les chardons du dedans. Après le péché, Dieu dit à l'homme, « Le sol est maudit à cause de toi. C'est à la peine que tu tireras ta nourriture tous les jours de ta vie. Il te produira des ronces et des chardons, et tu mangeras de l'herbe des champs. C'est à la sueur de ton visage que tu mangeras du pain. » Genèse 3, vous connaissez. Et encore une fois, quand on lit ça avec l'angle du travail, on comprend un petit peu mieux pourquoi est-ce que le travail est difficile. Depuis Genèse 3, le travail, c'est synonyme de souffrance, de difficulté et d'obligation. Tirer le pain à la sueur de son front. Celui qui se relâche dans son travail est frère de celui qui détruit. Les difficultés dans le travail, on en a tous, mais pas de manière égale. Il y a les obstacles du quotidien qu'on a dans notre travail, il y a les projets qui n'aboutissent pas ou qui n'avancent pas comme on voudrait, il y a les entreprises qui échouent quand on se lance dans une entreprise, il y a des injustices dans les relations, il y a le travail en équipe qui est compliqué, il y a les relations boss-employé qui n'est pas facile, client-fournisseur qui peut parfois être pas toujours sur des bases saines. Il y a de l'injustice, évidemment, sur le plan financier. Il y a des gens qui sont scandaleusement mal payés pour le travail qu'ils font. Des vraies injustices. Il y a de la pénibilité physique pour certains, de la pénibilité psychologique pour d'autres. Il y a certains secteurs d'activité où c'est tellement pas valorisé par la société que les gens travaillent avec tellement peu de moyens, des bouts de ficelle, avec des défis qui augmentent d'autant plus. Tout ça, c'est les ronces du dehors. Mais on a aussi les ronces du dedans, celles que notre cœur nourrit. Il y a des pièges dans lesquels notre cœur rentre avec ces difficultés du travail. Et le premier, peut-être, je ne sais pas si c'est vraiment intuitif, mais le premier, c'est la paresse. Celui qui apparaît le plus dans Proverbes, c'est la paresse. J'étais assez étonné de découvrir ça. Face à la difficulté du travail, le premier piège de notre cœur, c'est la paresse. Je suis passé près d'un champ d'un paresseux, près de la vigne d'un homme dépourvu de bon sens. Les épines y poussaient partout, les ronces couvraient le sol et son mur de pierre était écroulé. J'ai regardé bien attentivement et j'ai tiré instruction de ce que j'ai vu. Tu peux somnoler un peu, tu veux somnoler un peu, te reposer encore, juste croiser les mains pour dormir. Voilà que la pauvreté te surprend comme un rôdeur et la misère comme un homme armé. Quand j'ai fait mes petites recherches dans Proverbes au sujet du travail, j'étais très étonné de voir la quantité de proverbes qui parlent de la paresse. Et avec cette base-là, les amis, je peux vous dire que vous êtes paresseux. Et moi aussi. C'est sûr, vu la manière dont Proverbes en parle, on doit partir de ce principe-là, on est tous paresseux. Il y a le paresseux qui a toujours de bonnes excuses, il y a celui qui procrastine et a toujours autre chose à faire, il y a celui qui veut tout simplement rien faire, il y a le paresseux qui préfère pas prendre de risques, celui qui veut rester que dans le divertissement. On a tous quelque chose de paresseux, Le paresseux dit « Il y a un lion sur le chemin, il y a un lion dans les rues », des excuses partout. Je pense qu'on a, on a tout intérêt à partir de ce principe-là de se dire « Je suis paresseux, où est-ce qu'elle est ma paresse ?» Et je vous invite à faire ce bilan-là, en fait. Moi, je l'ai fait, très instructif. « Ok, je suis paresseux, je vais débusquer la sagesse, où est-ce qu'elle est ?» Faites cet exercice-là cette semaine, vous allez voir, c'est très intéressant. Il y a des mensonges, on entretient des mensonges dans notre cœur qui révèlent qu'il y a des choses qui ne sont pas alignées. Moi, j'ai dû regarder la gestion de mon temps et me dire, ouais, en fait, il y a des mensonges que j'entretiens là. Mon temps ne m'appartient pas, il appartient au Seigneur. Ça, c'était le premier risque, piège pour le cœur. Le deuxième piège pour le cœur, c'est celui de courir après ce que j'ai appelé des bénéfices transactionnels. Le cœur nourrit une quête en permanence de courir après des bénéfices transactionnels. Le premier auquel on peut penser, c'est la richesse, bien sûr. Quand on parle du travail, on cherche la contrepartie qui va avec. Ne te fatigue pas à acquérir la richesse, n'y applique pas ton intelligence. Veux-tu la poursuivre du regard ? La voilà disparue. En effet, la richesse se fait des ailes et comme l'aigle, elle prend son envol vers le ciel. La richesse, ce n'est pas mal en soi. Par contre, quand c'est la seule motivation de notre cœur, évidemment, vis-à-vis du travail, là, ça devient un problème. Toujours dans les bénéfices transactionnels, autre chose qu'on retrouve et dans laquelle on peut mettre presque tout le reste, c'est la quête de rédemption. Je suis quelqu'un parce que je fais des bonnes choses. Je suis quelqu'un parce que je suis reconnu dans ce que je fais. Je suis quelqu'un parce que je suis très occupé, alors du coup, je dois être quelqu'un de très important. À chaque fois là-dedans, il y a une quête de rédemption. Les proverbes nous met en garde à plusieurs reprises, en appelant souvent ça des chimères ou des choses sans valeur qui nourrissent notre ego. Les proverbes nous engagent à nous recaler sur les choses véritables, la vraie valeur du travail, pas ces chimères auprès desquelles on peut courir. Celui qui cultive son terrain est rassasié de pain, mais celui qui poursuit des réalités sans valeur manque de bon sens. Et je termine avec cette citation de Tim Chester dans son livre sur le travail, on en a plein au local, c'est « Le travail centré sur l'évangile », je crois, le titre. Si ça vous intéresse pour cette rentrée, vous pouvez l'emprunter au local, vous le ramener, c'est fait pour. Voici la citation de Tim Chester, très juste, je trouve. « La plupart d'entre nous sommes les propres artisans de notre suractivité. Ce n'est pas une décision que nous prenons le matin du genre « Aujourd'hui, je vais me surmener ». Au contraire, notre surcharge de travail résulte de nos choix et des désirs que nous entretenons. » C'est intéressant de voir les choses comme ça. Alors, il y a des vrais surmenages qui viennent d'ailleurs, mais globalement, ce truc-là reste vrai. Alors, maintenant qu'on a une bonne compréhension du travail, on a vu que c'était quelque chose de bon, voulu par Dieu, il faut vraiment partir de là, mais que ça a été abîmé par la chute et que du coup, il y a des ronces et des chardons. Qu'est-ce qu'on fait avec ça ? Et bien, justement, Proverbe nous aide à y voir plus clair là-dedans, selon la sagesse de Dieu, pour quelles raisons on travaille. La première des raisons, selon la sagesse de Dieu, c'est de servir et œuvrer pour notre prochain, pour porter du fruit. Et un autre livre que je vous recommande, celui de Tim Keller, qui dit, le titre je crois que c'est « Dieu dans mon travail », un très bon livre que je vous recommande, qui dit ceci, « Notre travail quotidien ne peut être un appel, une vocation, que s'il est repensé comme une mission que Dieu nous confie. » Je vous relis juste le début là, juste pour qu'on comprenne. Il n'est pas en train de dire « changer de boulot pour faire ceci, cela ». Il dit « repenser le travail ». Notre travail quotidien ne peut être un appel, une vocation, que s'il est repensé comme une mission que Dieu nous confie, celle de servir les autres. C'est exactement ainsi que la Bible nous apprend à considérer le travail. Cette manière révolutionnaire de considérer le travail confère à toute activité professionnelle un même but, un but prestigieux, honorer Dieu en aimant notre travail en aimant notre prochain et en le servant par notre travail. Servir notre prochain dans ce qu'on fait. Je ne sais pas si certains d'entre vous sont passés par cette crise peu existentielle de dire « qu'est-ce que je fais dans mon travail ? À quoi ça sert ?» Souvent, c'est vers la trentaine que ce truc-là arrive. C'est-à-dire qu'on a fait nos études, on a trouvé un boulot qui correspondait à nos études, Dieu le voulant, ça s'est passé à peu près comme ça, et puis d'un seul coup, on se dit « en fait, à quoi ça sert le travail que je fais ? Je fais des études, maintenant j'y suis et je ne comprends plus le sens. » Notre société, il y a beaucoup de jobs où on est très éloigné d'aider son prochain. Et cette perte de sens-là, elle vient de là. Et c'est une bonne chose d'avoir ces questions-là qui arrivent. Peut-être, si ce n'est pas la trentaine, ce n'est pas la trentaine, peu importe. C'est des bonnes questions, en fait. C'est une bonne nouvelle d'avoir ce genre d'interrogation. Ça montre qu'en fait, on est connecté avec l'appel que Dieu nous donne. De dire, en fait, je t'ai mis là et je te bénis pour que tu puisses servir les autres. Il y a une dimension sociale qu'on devrait avoir tous dans notre travail. Je ne dis pas qu'il faut qu'on soit tous des travailleurs sociaux, je dis qu'entre qui je suis et le travail que je fais, je dois avoir en perspective le bien de mon prochain. En perspective, opérer pour le bienfait de la société. Et si peut-être il faut que je plisse les yeux très fort parce que c'est très loin, et si cette réponse-là me convient, ça va. Le problème vient quand, même en plissant les yeux, je ne vois même plus le prochain dans la perspective que je regarde. Là, on a un problème. Il ne faut pas se voiler la face. Il y a des réponses qui ne sont pas satisfaisantes, qui peuvent ne pas être satisfaisantes quand on réfléchit à cette question-là. Est-ce que dans mon travail, comment est-ce que dans mon travail au quotidien, je sers mon prochain ? Il peut y avoir des réponses qui sont réellement insatisfaisantes. De manière objective, il y a des jobs qui ne rendent pas gloire au Seigneur et qui ne servent pas le prochain, de manière assez évidente. Mais de manière subjective aussi, il y a une part de subjectivité là-dedans. Et il faut pouvoir réfléchir à cette question et on ne va pas tout plaquer d'un seul coup quand on se rend compte qu'en plissant les yeux, on ne voit plus le prochain derrière. On prend en considération les responsabilités qu'on a, mais c'est une bonne manière de se poser la question et une bonne alerte en tout cas pour commencer la réflexion. La logique de la société, la logique du travail dans lequel on est, c'est une logique productiviste, la logique de la performance, la logique du gain rapide. Les projets de l'homme actif sont tout profit, mais celui qui agit avec précipitation n'arrive qu'à la misère. Quand on lit Proverbe, la logique, elle est assez différente de cette logique productiviste. La sagesse de Dieu, elle nous invite à une logique de fécondité, une logique qui porte du fruit pour la société, pour le prochain. C'est une logique qui vise long terme, une logique qui avance avec persévérance. On n'est pas dans le gain rapide visé comme on l'a souvent dans la société. Une fortune mal acquise diminue, mais celui qui amasse peu à peu augmente son bien. La performance, elle est souvent auto-centrée, elle est souvent court-termiste, la logique de la performance. Elle vise souvent le bénéfice pour soi, pour l'entreprise dans laquelle on travaille. Avec cette notion de compétition, je ne dis pas que c'est une mauvaise chose la compétition, mais ça invite de toute manière à prendre pour soi. Et le mandat culturel nous invite à réfléchir à ça autrement, et nous invite à réfléchir collectif, à réfléchir long terme, à réfléchir au prochain et à la société d'abord. Et forcément, du coup, ça va générer, avec une éthique du travail calibrée avec cette logique-là, on va nécessairement, en tant que chrétien dans le monde, se retrouver avec une tension. Je suis sûr que beaucoup d'entre vous sentent déjà cette tension entre la logique productiviste et une logique à porter du fruit, une logique long terme qu'on veut amener à prendre soin des autres. Mais s'il y a une tension, ça ne veut pas dire que c'est impossible. Et je suis persuadé qu'il y a plusieurs d'entre vous qui ont déjà senti dans leur travail qu'en faisant un choix avec une éthique et des valeurs chrétiennes, de bonnes valeurs qui nous viennent de la volonté de Dieu, vous avez eu plus de satisfaction à faire ces choix-là qu'à faire l'autre choix qui amenait vers autre chose. Je suis sûr qu'il y a plein de gens qui ont déjà vécu ça. Ce n'est pas infaisable d'avoir un management avec une, logique où on veut porter du fruit pour l'autre. Ce n'est pas infaisable d'avoir, de livrer un produit artisanal en ayant une logique long terme, en visant le bien de l'autre. Ce n'est pas infaisable de faire du marketing, du conseil, avec une honnêteté, une transparence, en visant long terme pour le client. Et non seulement ce n'est pas infaisable, les amis, mais je suis profondément convaincu que c'est ça qui rend heureux dans le travail. Parce que on retrouve cet alignement de pourquoi Dieu nous a fait comme ça et pourquoi est-ce qu'il nous équipe et nous place là où il nous place. Pour qu'on puisse porter du fruit pour notre prochain. Ça, c'était la première raison de pour quelle raison on peut travailler. La deuxième, selon la sagesse de Dieu, c'est glorifier Dieu équipé de son courage. Je l'ai déjà dit, ça, il y a plein de proverbes, d'innombrables proverbes qui parlent de la paresse. Et souvent, vous savez, les proverbes fonctionnent en contraste. Il y a le paresseux et le pas paresseux. Qu'est-ce qu'il est, le pas paresseux ? Il est courageux. De manière quasi systématique, dans les proverbes, il est courageux. Le peuple maudit celui qui refuse le blé, mais la bénédiction repose sur la tête de celui qui le vend. Dieu a placé celui qui doit vendre le blé à cet endroit-là, et ce que Dieu attend de cette personne-là, c'est qu'il vende du blé. Et il bénit son prochain en faisant son travail, en vendant du blé. Dieu nous demande d'avoir du courage là où on est, d'œuvrer avec courage, et ça lui rend gloire. Parler du travail avec un petit peu une trame biblique comme on l'a fait, c'est difficile de ne pas parler d'Ecclésiaste. Vous vous souvenez, Ecclésiaste, vanité des vanités, il s'est lancé dans tellement d'entreprises, l'Ecclésiaste, il a pu tout faire, et il s'est lancé corps et âme dans tellement d'entreprises, et à la fin, vanité des vanités, ça ne sert à rien, tout n'est que fumée. Et alors on se retrouve avec deux éléments là avec lesquels on doit essayer de trouver un équilibre. Vanité des vanités, c'est vrai, je ne vais pas chercher mon salut là-dedans. Mais Dieu m'a placé à un endroit, il m'a donné une vocation, il m'a donné des dons, et alors je dois les investir avec le courage, équipé de son courage. Une des paraboles que je préfère dans la Bible, c'est la parabole des talents. Est-ce que vous connaissez vos talents ? Est-ce que vous avez compté vos talents ? La parabole des talents, ça compte les talents. Il y en a qui ont 10, il y en a qui ont 5, il y en a qui ont 1. Quand le Seigneur revient, le Maître revient et demande combien tu as fait fructifier tes talents. Et je pense qu'on devrait savoir si on est plutôt proche de 5, proche de 10, proche de 1, c'est pas un problème. Le Seigneur n'attend pas 10 de celui qui a 1. Mais on doit être conscient de combien de talents on a et les investir correctement pour quand le Maître reviendra. Ce n'est pas quelque chose d'optionnel. On est redevable de ça devant Dieu. Alors on a dit que le réflexe du cœur de l'homme, le piège du cœur de l'homme vis-à-vis du travail, la difficulté du travail, c'est la paresse, la passivité, la logique. De la sagesse de Dieu, c'est le courage, l'activité. Ce n'est pas une activité qui est juste galvanisée par un super discours. Ça, vous en avez plein sur YouTube, vous cherchez discours de motivation pour votre workout, pour votre work tout court, vous allez trouver plein de choses. Ce n'est pas ça. C'est une activité parce qu'on constate qu'en fait, Dieu réellement nous a équipés. Il a voulu qu'on soit dans cette direction. Il nous a équipés pour ça, il nous a donné des talents. Même mieux que ça, il a prévu de bonnes œuvres pour que nous les pratiquions. Il a prévu ça d'avance. Et alors, œuvrer et s'engager là-dedans avec courage, ça prend une autre dimension. Moi, je me suis fait la réflexion, je me dis, Dieu il nous a équipés, il nous a placés, il nous a donné des talents, etc. Et il a même programmé les bonnes œuvres pour qu'on les pratique. À quel moment je me dis, je vais manquer de temps et d'énergie pour ce truc-là ? Vous voyez le truc ? Équiper de son courage, c'est ça que ça veut dire. Ça ne veut pas dire que ce sera facile. Hein. Tout ne sera pas facile, mais si Dieu l'a prévu, à quel moment ça ne va pas se faire ? On va conclure. Dans un instant, on aura un temps de prière et puis on aura la scène. Pour quelle raison on travaille ? Pour manger, déjà. C'est une première chose assez terre à terre. Mais évidemment, pour porter du fruit. Se lever le matin, ça sera toujours difficile, ça sera toujours un défi. Il y aura toujours des ronces, des chardons dans notre travail. Mais adopter la sagesse divine, ça nous permet d'aligner notre pratique, ça nous permet de redonner du sens dans ce que l'on fait. Et alors, on peut s'engager dans un travail courageux, dans un travail fécond et dans un travail orienté vers les autres, qui sert les autres. Léon Marchand, il témoigne d'une vraie joie, réellement, à la fin du documentaire. Il est rayonnant, même tout le long du documentaire, il est assez joyeux. Parce que, comme on disait en intro, ce qu'il fait, c'est aligné avec qui il est. Mais il y a une dimension qui manque. Ça reste lui autour de lui et qui sent qu'il est. Mais il y a une dimension tellement plus grande quand on sait que ce que je fais, c'est aligné avec ce que je suis, parce que ce que je suis, c'est aligné avec ce que Dieu a voulu. Et d'un seul coup, il y a quelque chose de transcendant, quelque chose de vertical qui est là, qui a beaucoup, beaucoup plus de valeur, beaucoup plus satisfaisant. Et il y a quelque chose d'encore plus satisfaisant, de constater que il y a une dimension de paix dans le travail dans lequel je peux m'investir. En fait, je ne vais pas m'engager dans mon travail avec ce schéma de quête de rédemption, de me dire « il faut que j'aille chercher quelque chose pour prouver ». Non, parce que Dieu l'a déjà fait, Jésus l'a déjà fait. Libéré de cette quête de rédemption, alors j'ai un paquet d'énergie que je ne vais pas orienter pour me sauver moi, mais un paquet d'énergie que je peux donner pour servir les autres. Vous voyez comment c'est libérateur ? Je veux servir plutôt que me servir. Je n'ai pas besoin de prouver quelque chose, je n'ai pas besoin d'aller chercher une validation. Jésus a déjà tamponné la valeur que j'avais, je n'ai pas besoin d'aller la chercher, la prouver. Et alors je peux me reposer, m'appuyer sur ce que Jésus a déjà fait, et je n'ai pas besoin d'aller chercher le repos, en fait. L'énergie que j'ai pas besoin de la préserver, de la sauvegarder en me disant « il m'en faut garder mon temps, mon énergie ». Je peux le donner pour les autres parce que je peux m'appuyer sur le courage que Dieu me donne. Je propose maintenant un temps de prière, un temps pour se mettre en perspective l'année, se mettre en perspective la rentrée, le travail qu'on a devant nous, on a tous une activité. Et on peut prendre quelques secondes juste pour remettre en ordre un petit peu tout ce qu'on vient d'entendre, trouver les mots, et puis on a tous une activité, alors sentez-vous libre de prier. On va maintenant prendre le repas du Seigneur, un moment privilégié pour les enfants de Dieu. On veut prendre ce repas en se souvenant que Jésus nous a libérés des chimères près desquelles notre cœur pourrait se perdre dans la course. Jésus a tout accompli. Je vous lis ce passage, le passage de la scène dans Marc 14, versets 22 à 25. Pendant qu'il mangeait, Jésus prit du pain, et après avoir prononcé la prière de bénédiction, il le rompit et leur donna en disant « Prenez, mangez, ceci est mon corps. » Il prit ensuite une coupe, et après avoir remercié Dieu, il la leur donna, et ils en burent tous. Il leur dit « Ceci est mon sang, le sang de la nouvelle alliance, qui est versé pour beaucoup. Je vous le dis en vérité, je ne boirai plus jamais du fruit de la vigne jusqu'au jour où je le boirai nouveau dans le royaume de Dieu. » Si vous êtes enfant de Dieu, si Jésus est votre sauveur, s'il règne dans votre vie, vous êtes invité à la table du Seigneur. Et je vous propose de prendre cette scène avec la perspective d'être effectivement, comme on l'a déjà dit, libéré d'aller chercher une rédemption dans le travail, parce que notre Sauveur nous l'a donné. Quand vous êtes prêts, sentez-vous libre de venir prendre le pain et le vin derrière.
Et la course achevée, encore mon chant dira, non pas moi, mais par Christ.